Chapitre 17. C'est la troisième nuit que je passe dans la cabane. Je m'habitue chaque jour davantage au silence et à la profondeur des ténèbres. Je n'ai plus vraiment peur de la nuit. Je mets des bûches dans le poêle, installe une chaise devant et me mets à lire. Quand je suis fatigué, je regarde les flammes du poêle, sans penser à rien. On ne se lasse pas de contempler les flammes. Elles semblent animées d'une volonté propre et jouir de la liberté d'une créature vivante. Elles naissent, se rassemblent, se séparent, s'éteignent et disparaissent. Quand le temps n'est pas couvert, je sors regarder le ciel. La vue des étoiles ne me donne pas le même sentiment d'impuissance qu'avant, et je me sens de plus en plus proche d'elles. Chaque étincelle a un éclat différent. J'en ai identifié certaines et les observe briller dans la nuit. De temps en temps, elles jettent des feux plus forts, comme si elles venaient de se rappeler quelque chose d'important. La lune blanche est si claire qu'en concentrant mon regard, j'arrive à distinguer tous les détails de ses reliefs. Dans ces moments-là, je ne peux plus penser à rien. Je retiens mon souffle et regarde fixement le spectacle, de tous mes yeux. La batterie de mon baladeur s'est complètement déchargée. Pourtant, être privé de musique ne me dérange pas autant que je l'aurais cru. Le gazouillis des oiseaux, le crissement des insectes, le murmure de la rivière, le froissement des feuilles agitées par le vent, les pas d'un petit animal trottinant sur le toit de la cabane, le bruit de la pluie, et parfois, des sons indescriptibles et mystérieux frappent mes tympans. Je ne m'étais jamais rendu compte que le monde était plein de bruits naturels si vifs et si beaux. Je vivais sans voir, sans entendre ces choses essentielles. Pour combler ce manque, je reste assis des heures sous le porche, les yeux fermés, immobile, simplement attentif à tous les sons autour de moi. La forêt ne provoque plus en moi la même crainte qu'au début. Elle m'inspire une sorte de respect naturel et je me sens même intime avec elle. Mais je me contente bien sûr de rester sur le petit sentier à proximité de la cabane et ne pénètre pas plus avant. Je ne dois pas m'éloigner du chemin. Tant que je respecte cette règle, il ne peut rien m'arriver. La forêt m'accueille en silence. Ou peut-être m'ignore-t-elle? Et je peux partager la sérénité, la beauté qu'elle abrite. Mais peut-être que si j'enfreins la règle, des bêtes sauvages tapies dans le silence viendront me prendre dans leurs griffes acérées. Je me promène parfois sur le sentier, m'allonge dans la petite clairière ronde au milieu des arbres, savoure le soleil qui y joue. Je ferme les yeux et tout en offrant mon visage à la caresse des rayons, je tends l'oreille au bruit que fait le vent dans la cime des arbres. J'écoute les oiseaux battre des ailes, les fougères frémir. Un profond parfum de végétation m'enveloppe. Je me sens libéré de la gravité. Il me semble que mon corps se soulève un peu au-dessus du sol. Je flotte légèrement dans l'espace. Naturellement, cet état ne dure pas. Ce ne sont que des sensations fugitives qui disparaissent dès que je rouvre les yeux et que je quitte la forêt. Mais j'ai beau le savoir, c'est une expérience qui me chavire le cœur. Après tout, dans ces moments-là, j'arrive à flotter dans l'espace. De temps en temps, un violent orage éclate, se déchaîne et s'arrête aussi vite qu'il a commencé. Le temps peut changer brusquement dans ces montagnes. Chaque fois qu'il pleut, je me déshabille, sors tout nu devant la maison, me savonne tout le corps et me rince sous la pluie. Quand j'ai transpiré après avoir fait ma gymnastique, j'ôte mes vêtements et prends un bain de soleil. Je bois des quantités de thé et me plonge dans la lecture, assis sur une chaise sous le porche. Quand le soleil se couche, je rentre pour lire devant le poêle. Je lis des recueils de contes, des manuels scolaires, des récits folkloriques, des ouvrages de mythologie, de sociologie, de psychologie, et du Shakespeare aussi. Plutôt que de lire un livre du début à la fin, je lis et relis plusieurs fois des passages qui me semblent importants, m'efforçant de bien les comprendre. Cela me paraît un procédé assez sûr pour intégrer un grand nombre de connaissances dans divers domaines. Il y avait un nombre incalculable de livres que j'avais envie de lire sur les étagères, et il me restait pas mal de provisions. Mais je savais que mon séjour dans cette cabane ne serait que temporaire. Je ne faisais qu'y passer. Cet endroit était trop serein, trop naturel, trop parfait. Je ne le méritais pas. C'était trop tôt, sans doute. Oshima est revenu l'après-midi du quatrième jour. Je n'ai pas entendu la voiture. Un petit sac à dos sur l'épaule, il s'est avancé à pied sur le sentier. Je suis assis sur une chaise sous le porche, entièrement nu, somnolent au soleil et ne l'entends pas approcher. Il a dû étouffer le bruit de ses pas pour me faire une blague. Il monte les marches du perron, tend le bras et me touche la tête. Je me lève en sursautant, cherche une serviette pour cacher ma nudité, mais il n'y en a pas à portée de main. « Ne t'en fais pas, » dit Oshima. « Moi aussi, quand je suis ici, je prends des bains de soleil tout nu. C'est agréable d'exposer au soleil des parties de notre corps qui n'en ont pas souvent l'occasion. » Mais j'ai le souffle court à l'idée d'être nu devant lui, avec mes poils pubiens, mon pénis, mes testicules brillants au soleil, vulnérables et sans défense. Je ne sais que faire. Il est trop tard pour cacher tout ça maintenant. « Bonjour, » dis-je. « Vous êtes venu à pied ?»«
Oui, il faisait tellement beau. Ça aurait été dommage de ne pas utiliser mes jambes, non ? J'ai laissé la voiture au portail et j'ai marché jusqu'ici. »
Il attrape une serviette posée sur la rampe et me l'attend. Je l'enroule autour de mes hanches et me sens enfin plus calme. Oshima fait bouillir de l'eau en chantonnant, sort de son sac à dos de la farine, des œufs, du lait, fait chauffer la poêle et prépare des crêpes. Il les tartine de beurre et de sirop d'érable. Puis il prend dans son sac de la laitue, des tomates, des oignons et les tranche pour composer une salade. Il manie son couteau lentement et méticuleusement. Ensuite, nous déjeunons ensemble.
« Comment te sens-tu au bout de 3 jours ? »
demande-t-il en coupant sa crêpe. Je lui raconte à quel point j'apprécie la vie ici. Je ne lui dis pas que je me suis enfoncé dans la forêt, ni ce que j'y ai ressenti. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ça vaut mieux.
« Très bien, très bien !» dit-il. « J'étais sûr que tu t'y plairais !»«
Mais nous allons rentrer en ville maintenant, n'est-ce pas ?»«
Oui, nous allons rentrer !»
Une fois les préparatifs de départ achevés, nous faisons un ménage rapide de la cabane. Je lave la vaisselle, l'arrange dans les placards, nettoie le poêle. Je vide le seau d'eau, ferme la bouteille de gaz. Range les provisions qui se conservent dans un placard, jette celles qui sont périssables. Nous balayons par terre, passons un chiffon sur la table, les chaises, creusons un trou dehors pour enterrer les détritus. Nous emportons les sacs poubelles avec nous. Oshima ferme la cabane à clé. Je me retourne une dernière fois pour la regarder. Elle avait une telle présence jusqu'à tout à l'heure, mais maintenant, elle me paraît déjà irréelle. Il a suffi de quelques pas pour que tout ce qui se trouvait là perde toute réalité. Même moi qui m'y trouvais, il y a un instant, j'ai l'impression d'être devenu imaginaire. Il nous faut une 30aine de minutes pour redescendre jusqu'à l'endroit où Oshima a garé sa voiture. Nous ne parlons pas beaucoup en marchant. Pendant tout le trajet, Oshima sifflote une mélodie. Moi, je me livre à des pensées sans suite. La petite voiture de sport verte qui se fond dans la forêt environnante attend sagement son propriétaire. Afin d'éviter que des promeneurs n'entrent par hasard ou sciemment sur son terrain, Oshima ferme le portail, l'entoure de 2 tours d'une chaîne qu'il cadenasse. Comme à l'aller, j'arrime à l'arrière mon sac à dos avec de la ficelle. Oshima décapote la voiture pour que nous profitions du soleil et annonce
« Nous rentrons en ville !»
Je hoche la tête.
« C'est merveilleux de vivre seul en pleine nature. Cela ne fait aucun doute. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, dit Oshima en mettant ses lunettes de soleil et en attachant sa ceinture de sécurité. Assis à côté de lui, j'attache moi aussi ma ceinture. Cela n'a rien d'impossible en théorie, et il y a des gens qui y parviennent. Mais la nature est, en un sens, peu naturelle. Trop se décontracter peut être source de menaces pour nous, humains. Il faut une certaine préparation et de l'expérience pour accepter cette contradiction et vivre avec. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous retournons en ville. Nous retournons aux activités humaines et à la compagnie de nos semblables. Oshima appuie sur l'accélérateur et entame la descente. Cette fois, il n'est pas pressé et conduit lentement, appréciant le paysage et le vent qui souffle par derrière et agite sa longue frange. Bientôt, le chemin de terre rejoint une route étroite et goudronnée qui longe des champs et de petits hameaux. « À propos de contradictions, » dit soudain Oshima, « la première fois que je t'ai vu, j'en ai senti une en toi. Je me suis dit, ce garçon a l'air de chercher désespérément quelque chose et en même temps de tout faire pour l'éviter. »«
Qu'est-ce que je cherche d'après vous ?» Oshima secoue la tête et regarde dans son rétroviseur en fronçant les sourcils.
« Je ne sais pas. J'exprime juste une impression que j'ai eue. »
Je ne réponds pas.
« D'après mon expérience, quand on cherche désespérément quelque chose, on ne le trouve pas. Et quand on s'efforce d'éviter quelque chose, on peut être sûr que ça va venir vers nous tout naturellement. Bien sûr, ce n'est qu'une théorie. »
Si vous appliquez cette théorie à mon cas, que va-t-il m'arriver si je cherche quelque chose et essaie de l'éviter en même temps?
C'est une question difficile, dit Oshima en souriant. Puis il reprend après une petite pause. Si je peux me permettre de le donner, voilà mon avis. Peut-être que ce que tu cherches ne viendra pas sous la forme à laquelle tu t'attends.
On dirait une espèce de prédiction.
Comme dans Cassandre.
Cassandre ?
Une tragédie grecque. Cassandre était la fille du roi de Troie et une prophétesse. Apollon lui a donné le pouvoir de prédire le destin. Elle était l'oracle du temple. Mais en échange, il a voulu l'obliger à avoir des relations charnelles avec lui. Elle a refusé et le dieu en colère l'a maudite. Les dieux grecs sont plutôt mythologiques que religieux. Autrement dit, ils ont les mêmes défauts que les humains. Ils s'emportent facilement, se laissent guider par le désir charnel, sont jaloux et versatiles.
Il sort une petite boîte de pastilles au citron de la boîte à gants, en met une dans sa bouche, m'en propose une que j'accepte volontiers. Quelle était la malédiction ?
La malédiction de Cassandre ?
Je hoche la tête.
Toutes les prédictions sorties de sa bouche se réaliseraient, mais personne ne la croirait. Et en outre, il ne s'agirait que de prédictions funestes. Des trahisons, des accidents, des décès, la ruine du pays. Ainsi, non seulement les gens ne la croiraient pas, mais en plus, ils la mépriseraient et la détesteraient. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu devrais lire les pièces d'Euripide ou d'Eschyle. Ils décrivent de manière très actuelle les problèmes essentiels auxquels notre époque est confrontée, notamment grâce au choros.
Le choros ? Qu'est-ce que c'est ?
Un chœur qui était présent dans toutes les tragédies grecques. Les membres du choros se tiennent à l'arrière de la scène et expliquent la situation ou les sentiments profonds des personnages de la pièce. Parfois, ils essaient même de les aider. C'est très pratique. Il m'arrive de me dire que j'aimerais bien avoir un chœur derrière moi, moi aussi.
Vous avez le don de prédiction, Oshima-san ?
Non. Heureusement ou malheureusement, je ne l'ai pas. Si je donne l'impression de n'annoncer que des événements funestes, c'est parce que je suis quelqu'un de réaliste et que j'ai du bon sens. Je généralise et je raisonne par déduction. Du coup, ce que je dis sonne comme des prédictions. Et pourquoi ? Parce que la réalité est une simple accumulation de prédictions funestes qui se sont réalisées. N'importe qui peut le comprendre. Il suffit d'ouvrir un journal et de faire le compte des bonnes et des mauvaises nouvelles.
Oshima rétrograde soigneusement avant chaque tournant, en douceur. Cela se remarque à peine. Seul le bruit du moteur change légèrement.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, reprend-il. Nous avons décidé de t'intégrer à l'équipe. Désormais, te voilà membre du personnel de la bibliothèque commémorative Komura. Tu as les qualités requises, je crois.
Involontairement, je tourne la tête vers lui. Vous voulez dire que je vais pouvoir travailler à la bibliothèque?
Pour être plus précis, tu fais maintenant partie de la bibliothèque. Tu vas y vivre, y dormir. Tu ouvriras et fermeras les portes au public quand ce sera l'heure. Tu mènes une vie saine et tu as l'air costaud. Ce travail ne sera pas une trop lourde charge pour toi. Mademoiselle Saeki et moi-même n'avons pas la même force physique que toi. Et nous nous sentirons soulagés que tu accomplisses ces tâches à notre place. Nous te donnerons sûrement quelques autres petites choses à faire. Rien de bien compliqué. Par exemple, préparer du café, faire de petites courses. Une chambre t'attend déjà dans l'annexe de la bibliothèque. Il y a même une douche. Au départ, c'était une chambre d'amis. Mais personne ne vient dormir à la bibliothèque et on ne s'en sert jamais. C'est là que tu vivras. Le plus pratique dans tout ça, c'est que tu seras sur place pour lire ce que tu voudras.
Mais comment... Je ne sais pas comment terminer ma phrase.
Comment cela a été possible ? Complète Oshima. C'est très simple. Je te comprends et Mademoiselle Saeki me comprend. Je t'accepte et Mademoiselle Saeki m'accepte. Même si tu es un adolescent fugueur dont nous ignorons l'identité, ce n'est pas très grave. Finalement, l'important, c'est ce que tu penses, toi. Ça te dit de faire partie du personnel de la bibliothèque ?
Je réfléchis un moment et je réponds. Pour l'instant, j'ai juste besoin d'un lit. Je ne peux pas réfléchir plus loin. Je ne comprends pas très bien ce que ça signifie de faire partie du personnel de la bibliothèque. Mais si je peux vivre sur place, je vous en serai très reconnaissant. Je n'aurai plus besoin de faire des allers et retours en train.
Alors, c'est décidé, dit Oshima. Je t'emmène là-bas et tu vas intégrer notre équipe.